Matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, cette semaine consacrée à ce thème consistance du nous, et ce soir avec Éric Chauvier. Nous sommes tous urbains, mais nous habitons parfois dans des petites villes, parfois dans le périurbain, parfois près des rocades, parfois dans ce que vous appelez, Éric Chauvier, les nouvelles métropoles du désir. Nous allons parler avec vous. Vous êtes enseignant à l'école d'architecture de Versailles, vous êtes anthropologue, mais vous êtes aussi écrivain et poète. Bonsoir Éric Chauvier.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Il sent des présences pesantes derrière lui. Cette sensation aussi, il l'a sanctifiée. La rue assourdissante autour de moi hurlait comme si son ombre était immense et allait l'absorber, l'anéantir. C'est un extrait du Revenant que vous venez de publier chez Alia. Qui parle ?
Sans doute l'exégète invisible de cette étrange bestiole qui revient dans Paris en 2019. J'avais envie de le faire parler parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur le Paris de 2019.
Et c'est qui ce crevard, ce zombie ?
Moi, je suis assez fan des films d'épouvante depuis très longtemps, même si je pense qu'aujourd'hui c'est un peu désuet le film d'épouvante parce que l'horreur a rattrapé la réalité. La réalité a rattrapé l'horreur, pardon. Mais ce crevard est une entité indistincte que je voulais volontairement faire rendre indistincte, rendre évolutive au fur et à mesure de ce qu'il ressentait. C'est la poésie, on pourrait dire. C'est l'état de la poésie actuellement dans ce pays et dans le monde en général.
Mais celui qui revient, vous le nommez quand même, c'est Charles Baudelaire.
C'est bien sûr Charles Baudelaire. C'est bien sûr une émanation zombiesque de Charles Baudelaire. Et par lui, la poésie, ou ce qu'il en reste.
Donc il revient dans ce Paris transformé. Et il nous voit. Qu'est-ce que ce poète, en fait, voit que nous ne voyons pas?
Baudelaire était visionnaire. Il y a une espèce de jeu sur les temporalités, puisqu'il revient en 2019, alors qu'il avait déjà perçu à peu près tous les éléments de la ville moderne, de la ville haussmannienne, et ce qu'elle allait devenir. Donc ce qu'il voit, c'est toute notre turpitude actuelle, toutes les façons que nous avons de nous agencer, d'hyper-intellectualiser nos comportements, les effets de la foule, le danger que constitue la foule, les façons de lyncher en public, les façons de se mépriser, les façons d'être dans l'urbain aujourd'hui, qui me semble, d'une façon générale, Simmel l'avait très bien montré, hein, hyper-intellectualisé, sans émotion.
Oui, voilà. Simmel l'avait montré, mais Baudelaire l'avait vu avant lui. Vous pensez vraiment que la poésie a une longueur d'avance sur les sciences sociales?
Je pense. C'est-à-dire que, pour être chercheur, je peux d'autant plus en parler que je fais de la fiction, du récit, et parfois de la fiction, comme ce Baudelaire. Et en même temps, je suis chercheur, et je vois le temps de la recherche. La recherche a toujours un temps de retard, je trouve, sur les événements qui se produisent. Et si on prend des grands écrivains, la plupart des grands écrivains ont parfaitement saisi, en fait, l'esprit aujourd'hui de l'urbanité, le devenir des villes, le devenir des territoires. Je pensais à Emmanuel Bove, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui avait parfaitement saisi le périurbain sur lequel je travaille, dès 1920, en fait. Tous les modes d'habiter dans le périurbain, il a saisi dès les années 20.
Donc vous écrivez une fiction, vous n'avez jamais été aussi loin, Éric Chauvier, dans la fiction, parce que là, il y a des meurtres, il y a des... c'est assez gore. Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que vous vous souvenez du moment, puisque vous êtes anthropologue, vous travaillez sur l'urbain, vous avez travaillé sur la rocade de Bordeaux, notamment, où vous habitez, et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris conscience de l'insuffisance ou de l'incomplétude de l'écriture académique?
J'en ai pris conscience puisque je suis anthropologue et parce que beaucoup de mes collègues utilisent les géographes notamment, mais pas tous. Je voudrais pas schématiser, je voudrais pas avoir un discours simplifiant ou lénifiant, mais plutôt montrer à quel point beaucoup de discours sont aujourd'hui surplombants en termes d'expertise. Et les insuffisances du surplomb, en quelque sorte, c'est l'incapacité à s'attacher aux détails. Or, la vie ordinaire, moi je suis très Wittgensteinien. Wittgenstein, c'est un philosophe qui a pensé l'ordinaire, le sol raboteux de l'ordinaire, c'est ce qu'il dit. Moi j'essaie de penser à partir et d'expertiser à partir de cette question du sol raboteux de l'ordinaire. Et je trouve que trop d'expertises aujourd'hui sont surplombantes et ne nous disent plus rien des façons d'habiter dans les territoires oubliés, mais aussi dans les villes, d'une certaine façon.
Vous êtes Wittgensteinien aussi dans la brièveté cinglante de vos livres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes trouvé avec un éditeur, Alia, qui accompagne votre œuvre depuis plusieurs années. Comment ça s'est passé?
J'ai envoyé un manuscrit un peu de façon très spontanée, sans cooptation, sans tout ça. Et je dois dire que depuis maintenant 2006, il y a entre Gérard Bérébi et puis son petit entourage et moi-même une relation vraiment de travail qui est hyper stimulante. C'est-à-dire que je progresse en fait, ce qui pour quelqu'un qui écrit est quelque chose d'important. Donc aussi être capacité d'être à l'écoute, de voir. Sur ce livre-là, je suis parti vers la fiction parce que j'ai écrit un livre précédemment chez Amsterdam qui s'appelle La Petite Ville, où oui. J'analyse la vie dans ma petite ville du Limousin où je suis né. Et les retours ont été très douloureux.
Pourquoi ?
Parce que le conseil municipal, vous voyez, les acteurs en locaux, les personnes en local ont mal perçu la chose, certains en tout cas. Ça a été violent pour moi.
Ils se sont reconnus ? Quel était le problème ?
Beaucoup se sont reconnus, alors même que je ne parlais pas d'eux, par exemple. C'est un peu le problème de l'anthropologie d'une façon générale. Il y a un effet de reconnaissance. Donc tout ça pour dire que là, j'ai été à l'écoute par Alia. Alia m'a beaucoup écouté. Accompagné dans cette démarche pour fuir un peu ce réel à un moment donné et aller vers la fiction. La fiction m'a fait beaucoup de bien parce que le réel, un peu la corne du taureau de Michel Léris, vous voyez, qui pique. Et c'est ce que j'ai ressenti profondément. D'où cette idée d'aller vers la fiction et d'avoir un éditeur qui vous accompagne vers cette dimension-là. C'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux.
Vous êtes anthropologue de l'ordinaire, dites-vous, et au fond, vous pratiquer une anthropologie de la désinterlocution. Qu'est-ce que vous désignez par là ?
C'est-à-dire que moi, je critique la désinterlocution qui abreuve... c'est un livre que j'avais écrit il y a quelques temps qui s'appelle « Anthropologie de l'ordinaire », qui montrait que la plupart des expertises, y compris des mes illustres prédécesseurs anthropologues, ne laissaient à peu près jamais parler les observés.
Ils étaient en surplomb,
ou avec différentes tactiques, le structuralisme, le fonctionnalisme, différents paradigmes, mais qui mettaient toujours à distance la parole des observés. On voit à quel point aujourd'hui, avec les récents événements qui surviennent sur le territoire français, à quel point ce type d'expertise aujourd'hui s'essouffle en fait. La désinterlocution, c'est ça, c'est produire un discours sans rendre compte de la parole et de la situation.
Au lieu des autres
et parler à la place des autres.
Et parler à la place des autres. Mm-hmm. Et ça, vous avez fait, quand je dis anthropologie de la désinterlocution, je veux dire que vous avez fait au fond l'anthropologie de cette position de surplomb.
Exactement.
Et pour en pratiquer une autre. Mais cette autre anthropologie de l'ordinaire qui ne daignait pas parler à la place des autres, elle doit nécessairement passer par la fiction ou elle doit lâcher les amarres de l'écriture académique ou elle peut encore se dire dans les formes convenues de la production savante?
Je pense que c'est un savant mélange, il faut savoir mélanger un peu les... Je suis lu aussi par mes collègues, et j'en suis très heureux, mes collègues issus du monde académique, mais c'est un jeu... Je pense qu'il y a peut-être une confusion entre fiction et narration.
Oui.
C'est-à-dire que je fais des récits d'enquête, et comme j'adopte un mode narratif, je suis la plupart du temps perçu comme étant un auteur de fiction. Mais c'est simplement un malentendu. Je pense que c'est simplement ce que je fais, simplement un récit d'enquête. Il y a une tradition de ça, y compris en anthropologie. Je pense à Jeanne Favre-Saada, par exemple. Les mots, la mort, les sorts, une étude de la sorcellerie dans le bocage, où elle fait le récit de son enquête. Et on apprend généralement beaucoup plus par ce biais-là que par une démarche, pour employer le jargon, hypothético-déductive, c'est-à-dire une grosse hypothèse, et on fait rentrer de force la réalité dans cette hypothèse.
Dans Contre-Télérama, qui est paru toujours chez Alia en 2011, vous dites « nous ». Moi, j'interroge cette question du « nous », Éric Chauvier. Ça a le droit de dire « nous », un anthropologue. Ça veut dire qu'il est effectivement inclus dans la réalité qu'il décrit.
Tout à fait. Je joue volontairement. Alors, c'est une référence à un texte de Thomas Bernhard que j'aime beaucoup.
Et un texte qui se trouve d'ailleurs dans la bibliographie
de
Contre-Télérama.
Et Bernhard, alors est-ce qu'il le fait sciemment ou pas ? Je suppose que oui, bien évidemment. Va altérer un peu le sens de ce nous, va le rendre évolutif au fur et à mesure de son récit. Ce procédé est fascinant en fait. C'est-à-dire que ce nous, au départ, est un nous très réaliste. Mon épouse et moi-même, puis une amie avec qui je fais du jogging dans le périurbain, puis c'est un nous réaliste. Et puis peu à peu, ce nous devient un nous un peu évanescent, un peu abstrait, Et là, je fais référence au nous royal des sciences humaines. Hein. Et puis, ce nous devient finalement un nous citoyen, c'est-à-dire un nous capable de se mobiliser dans le périurbain pour être en prise avec son territoire. Et c'est cette espèce d'évolution du nous au fil du récit qui, à mon sens, permet de jeter le trouble. Le lecteur est un peu troublé parce que qui est ce nous ? Mais c'est peut-être bien lui aussi, finalement.
Ça, c'était dans L'Imitateur, justement, L'Imitateur. De Thomas Bernhard. Mmh. Et vous en avez trouvé... En fait, vous cherchiez la forme. Alors, il faut peut-être expliquer pourquoi ça s'appelle Contre Télérama.
Télérama, en février 2010, a fait sa une en titrant « Halte à la France moche ». Et alors, moi, j'avais commencé à travailler sur le périurbain, et puis je trouvais qu'effectivement, en tant qu'anthropologue indigène, vivant dans le périurbain, il y avait des façons, des modes d'aliénation, hein, aux modes de consommation, à l'hypermarché, les mobilités, vous voyez on parle aujourd'hui de 5000 euros de budget par an consacré à la voiture. Toutes ces formes d'aliénation, le footing. Et puis cette une de Télérama m'a vraiment mis en colère parce que il y avait une forme de jugement de classe des urbains vers les périphériques d'une certaine façon. Alors c'était à l'époque, si je me souviens bien, c'était assez positif là, compte tenu de l'article, puisque ça évoquait le livre de Mangin sur la ville franchie, et qui est un livre tout à fait passionnant. Mais je trouve que ce titre, Halte à la France moche, était presque un acte inconscient des villes qui se mettaient à juger les périphéries sans les comprendre, en les plongeant dans l'obscurité. Il m'a brutalisé. Et puis, mais c'est très pertinent parce que ça devenait le déclencheur de mon enquête.
Il vous faut de la colère pour commencer à écrire.
Bien sûr.
Pour trouver une forme.
Bien sûr.
Et c'est cette colère qui va, au fond, vous amener à trouver la forme donc déstabilisée de ce nous. J'en lis un extrait, si vous voulez bien. Neige. Puisqu'il s'agit de parler d'esthétisme, une contrariété tenace nous pousse depuis que nous avons lu l'article de cet hebdomadaire, nous sommes parvenus à une conclusion des plus esthétiques. La vie périurbaine, son atmosphère ordinaire, est semblable à une épaisseur de neige tombée sur nos pavillons, insonorisant toute forme de vie qui pourrait s'en échapper, mais cloisonnant la vie singulière de chacun de ses habitants comme les agissements de putains dans un bordel. Chacune de ces franchises individuelles qui, avec leur décoration neutre et standardisée, semblerait, pour ce journal de la capitale, tout aussi moche que les franchises commerciales, héberge des fictions insondables et jamais sondé. Il nous reste ces notes que nous tenons depuis des mois, suggérant des visages et des paroles, autrement dit le potentiel de fiction qui se noue derrière chacune de ces baies vitrées. Donc là, on a tout. On a la fiction, on a les franchises, on a la colère et on a la forme qui vient.
Oui, c'est une... Tout d'un coup, je me suis rendu compte, j'ai basculé dans une espèce d'expérience où finalement le périurbain n'apparaissait plus comme un univers aliénant, mais comme un territoire de mystère. C'est pas une trouvaille. Les grands romanciers ont toujours travaillé sur le suburbain. Je pense à Thomas Pynchon. Vous voyez, des romanciers contemporains, évidemment, mais le suburbain est un territoire de mystère. Ce que je montre là, quand je parle des putains, c'est d'un bordel. Ça veut dire à quel point l'intensité de la vie est beaucoup plus dissimulé, mais en même temps beaucoup plus réel pour qui peut s'en donner la peine. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces territoires-là. Aujourd'hui, c'est l'objet de ma recherche dans mon labo à Versailles. Mais nous travaillons aujourd'hui avec mes collègues sur une façon de définir positivement ces territoires, mais qui sont des territoires de transgression, des territoires de mystère, des territoires aussi de créativité, et puis évidemment, pour les plus éloignés des villes, des territoires de grande pauvreté.
Mais donc cette colère contre l'inattention, c'est une des manières de définir au fond la poésie, pour Ponge, au fond. Elle vous donne la force et la forme, en fait, de décrire ce livre que, qu'évidemment nous lisons aujourd'hui, Éric Jauvier. Et au moment où cette France moche se rappelle à notre bon souvenir, vous la décriviez cette France périurbaine comme une zone dépolitisée, un archipel des solitudes et des silences, un lieu où le langage, où le concept ne mord pas. Vous décriviez par exemple dans ce fragment qui s'appelle Politique, vous décrivez vous-même dans un hypermarché, vous passez à la caisse et vous parlez politique. Et là, il y a une gêne qui s'installe, vous en souvenez ? Il y a quelque chose qui n'accroche pas. Justement, et le fragment se termine ainsi, c'est très frappant. Dans la zone périurbaine que nous occupons et que bientôt presque tout le monde occupera, quelque chose nous sépare à jamais.
Pour le coup, j'ai pas été très visionnaire, j'avais oublié les ronds-points. Voilà. Mais en tout cas, j'avais l'impression de cette dépolitisation, pour moi qui travaille sur le langage, de cette espèce de gêne dès lors qu'il s'agissait de parler de politique. Politique au sens classique, au sens des, on parlait de politique dans les Trente Glorieuses, vous voyez, Georges Marchais versus Giscard. Ces débats-là deviennent un peu, non pas de prise, mais je voudrais nuancer, c'est-à-dire que il faut arriver à une typologie très fine de ces territoires périurbains ou périmétropolitains au-delà. Oui. Là, on est sur, dans Contre Télérama, je décris finalement du périurbain assez résidentiel.
Oui.
Mais si on va au-delà, aujourd'hui, dans du pavillonnaire à 100 000 euros, des maisons, vous voyez, éloignées des grands axes routiers, des aéroports, etc., on va avoir d'autres pratiques, ou d'autres types de discours, mais une dépolitisation, de plus en plus importante.
On en a parlé d'ailleurs avec Fanny Talandier il y a quelques semaines sur ce qui prouve que il y a là un terrain littéraire. Mais je disais pas ça du tout pour vous mettre devant un manque de lucidité. Au contraire, je trouve passionnant de travailler comme chercheur à se ménager des surprises. Et au fond, mais maintenant j'ai quand même envie de vous demander, ça vous a surpris le mouvement des Gilets jaunes?
Oui, comme beaucoup de personnes, je pense.
Bah, moi, alors que vous travaillez dessus.
Travaillez
dessus, vous habitez aussi une zone périurbaine.
J'habite une zone périurbaine, mes parents vivent encore, et donc je vis encore dans le périmétropolitain, au-delà, vous voyez, dans des petites villes aujourd'hui, petites villes enclavées, qui est beaucoup plus propice finalement au mouvement des Gilets jaunes. Dans le périurbain résidentiel, on a beaucoup moins de mouvements de Gilets jaunes. Non, mais j'étais surpris moi-même, parce que les laboratoires de recherche sont en ville.
Oui.
Et évidemment, moi-même, je suis urbano-centré. J'ai beau dire le contraire ou vouloir le contraire, pour autant, je le suis. Donc, ça m'a évidemment surpris. J'étais à un stade où, vous voyez, tous ces discours sur le Front National, le vote FN, etc., je pensais qu'on était au-delà, qu'on était sur une absence totale de représentation pour certaines populations, pour certaines personnes, de ce que c'est que la Constitution, de ce que c'est que le vivre ensemble, de ce que c'est. Et puis, en fait, non. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est très intéressant.
De la politisation, justement, cette politisation qui était insoupçonnée ou indiscernable, enfin en tout cas que vous n'aviez pas repéré comme telle.
Oui, j'avais repéré la dépolitisation, mais je n'avais pas repéré l'idée d'une actualisation de cette pratique politique avec les ronds-points, une démocratie directe finalement qui s'exprime. Ça, c'était, je pense, ça a surpris beaucoup de chercheurs.
Vous avez exprimé cet étonnement, ce désarroi et de manière que j'ai trouvé très très belle et très très intense dans un texte de la revue de Sylvain Bourmeau, AOC, qui devait s'appeler, je crois, Gilets jaunes et bikinis rouges, c'est ça, quelque chose comme ça.
Gilets jaunes sur bikinis rouges sur fond jaune.
Bikinis rouges sur fond jaune, excusez-moi. Et vous revenez dans le lieu de votre enfance, Éric Chauvier, et vous voyez quelqu'un qui vous avait impressionné, non, vous étiez amoureux en fait dans la piscine municipale, et elle vous dit ah ben enfin tu reviens.
Oui, mais elle n'était pas amoureuse de moi, elle, hein.
J'ai compris à vous lire.
Et
je veux pas vous ramener à ces souvenirs embarrassants, mais enfin, en tout cas, le texte est très beau parce que
je suis en train d'écrire ce texte actuellement, de le reprendre, d'aller.
C'est un retour,
oui,
au fond,
c'est un retour
sur ces lieux qu'on a eu tort quand même d'appeler non-lieux.
Oui, c'est tout sauf des non-lieux. Ça, par contre, on le sait depuis très longtemps quand on étudie le périurbain. Un aéroport est un non-lieu. Pas ce type un rapport, faudra encore en reparler, mais en tout cas pas ce type de territoire. Mais avec ce texte-là et avec mes enquêtes actuelles, je travaille vraiment sur l'irréductibilité de l'expertise pour ces territoires-là. Moi, j'en suis arrivé à l'idée qu'on ne peut plus comprendre. Les cartes nous disent certaines choses, mais elles ne nous disent rien sur les modes d'habiter, sur les tactiques, sur les ruses pour être en prise avec les territoires. Et là, c'est ce que je raconte dans ce récit, c'est la trajectoire d'une femme qui a été traumatisée, comme beaucoup de personnes de ces territoires-là, par la fin des industries, par l'agriculture intensive qui change tout, qui modifie le paysage, par les commerces qui sont partis en périphérie. Donc il y a une succession comme ça, et puis par la rumeur, par les conflits de classes sociaux, etc.
Vous aviez des nouvelles d'elle, mais de proche en
proche, comme ça ? De proche en proche. Et puis, je voyais qu'elle était dans une situation très difficile, et que petit à petit, elle perdait pied. Tout se joue avec un traumatisme, une affaire de... toujours, c'est toujours souvent des histoires d'amour. Ça, les
oui,
cartes ne nous empêchent
qui...
jamais des histoires d'amour, mais c'est important.
Oui.
C'est un mariage et puis un arrangement et puis elle était promise à un fils de notable local et puis ça s'est pas fait.
Ça marche pas.
Il y a eu un arrangement autour de ça. Elle, elle en reste traumatisée. Elle a mon âge, elle a 40, 45, 47 et elle souffre évidemment de ça, mais ça l'a poursuivie toute sa vie. Aujourd'hui, elle est sur un rond-point et ça fait vraiment du sens. Et pour moi, les deux clés, c'est Freud et Marx, vous voyez. C'est-à-dire que Marx, c'est intéressant parce qu'il nous parle des rapports de classe et de la domination par les classes, mais on ne peut pas se limiter à ça. Il y a aussi l'incorporation très subtile de ces traumatismes autobiographiques qui rémanent des décennies après. Quoi.
C'est un très beau texte dans AOC que vous êtes en train de reprendre donc pour un livre.
Ouais.
Oui, parce que au fond, à un moment, vous êtes sûr en fait qu'elle est sur un rond-point. Vous allez la chercher.
C'est une évidence. C'est une évidence qu'elle est sur un rond-point. Et parce que je sais qu'elle en a besoin. Elle a besoin de cette... Il y a une idée de verbalisation qui se produit. Parce qu'on dit... Maintenant, les gens se retrouvent sur les ronds-points pour discuter. Mais pas que. C'est des endroits où il n'y a plus de bar, par exemple. Avant, on allait dans le bar pour... C'est une instance de réflexivité pour refaire le monde. Aujourd'hui, le rond-point devient une façon de verbaliser aussi, de verbaliser cette souffrance-là. Même si, encore une fois, je ne veux pas entrer dans le misérabilisme ou le déterminisme de classe. C'est-à-dire que il y a aussi des... C'est pas si simple. La souffrance ne se réduit pas à une pure négativité. Il y a aussi sans doute des éléments plus subtils.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie d'Éric Chauvier pour nous parler des différentes consistances du nous, de la géographie urbaine, périurbaine, du nous, et qui nous faisait entendre Paris de Taxi Girl. Pourquoi ?
C'est une musique qui a un peu changé ma vie. Ce son qui est très synthétique en fait,
oui,
mais qui est très rock, enfin, quelque part, et qui avec une posture romantique de dandy. Et puis c'était Mirwais et Daniel Dark, donc il y a beaucoup de classe. Et puis c'est le clip de cette époque qui est incroyable en fait. Une espèce de déambulation dans un Paris d'une autre époque qui est pas si loin. C'était ma jeunesse, mais c'est extrêmement fort comme image et comme morceau.
On avait commencé cette émission avec le revenant, c'est-à-dire un Charles Baudelaire zombifié qui revenait à Paris. Vous êtes, Éric Chauvier, un anthropologue de l'étalement urbain. Rien de ce qui est urbain ne vous échappe. Vous avez parlé des petites villes, vous avez parlé du périurbain, vous avez parlé de l'étalement urbain. Vous avez aussi publié ce livre tout à fait singulier qui s'appelle « Les nouvelles métropoles du désir ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est un... Alors, moi, c'est mon côté pas schizophrénique, mais j'occupe deux terrains en étant à la fois dans le périurbain et puis en passant une partie de ma vie à Paris, dans certaines métropoles. Et en gardant en tête, toujours dans un coin de ma tête, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis là à Montparnasse ou je ne sais où. Et en même temps, dans les territoires suburbains lointains. Et voilà, ce livre est une espèce de... Essayer de montrer la mécanique, enfin pas la mécanique, mais une espèce de mécanique, on pourrait dire, entre ces... Comment les périphéries perçoivent les urbains et comment les urbains occultent les périphéries. Tout parle d'un fait divers, en fait. Un hipster dans la rue qui se fait tabasser par trois jeunes filles venues des banlieues. Ou d'une banlieue, on va dire. Aujourd'hui, on dit banlieue sensible. Moi, je dis périmétropolitain parce qu'il n'y a plus rien qui fait de l'urbanité dans ce type d'endroit. Et voilà. L'enquête parle de cette anomalie.
Un hipster, c'est quoi, d'ailleurs?
C'est un jeune homme qui cherche à être à la mode. Donc, vous voyez, le livre a été écrit en 2015, barbu, rasé, vous voyez, avec des mèches un peu gominées, habillé un peu tendance. Et elle le frappe, et surtout, il ne réagit pas à aucun moment. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. J'ai essayé de l'aider dans l'instant, et il a refusé mon aide, comme s'il y avait une forme de honte. Et à ce moment-là, j'ai bien vu à quel point la ville était devenue incapable de penser ce qui se passe dans les périphéries, dans l'espèce de refoulé, et ces trois furies, au sens romain presque, qui débarque, qui déboule dans Paris pour taper ce jeune homme parce qu'il représente une image de l'urbanité. C'est quelque chose qui est le point de départ de mon enquête, en fait. Et après, j'essaie d'imaginer ce qu'est devenu mon ami d'enfance. J'entre dans un bar qui est hyper codifié et je comprends à quel point les villes aujourd'hui, qui sont là pour absorber du capital, on le sait depuis longtemps, et puis la Mésopotamie, c'est la même histoire, mais à quel point plus elles absorbent du capital et plus elles se coupent d'une perception, d'une représentation de ce qui se passe au-delà. C'est les limbes autour. Mais je pars toujours de choses très précises, en fait, de situations.
De choses vues.
De choses vues, bien sûr.
De choses vues, que vous allez fictionner, ou en tout cas, dont vous allez trouver la forme littéraire. Vous travaillez longtemps à attendre cette forme?
Il faut amender le texte. Je pense que chacun écrit comme il peut. Moi, j'ai besoin de revenir sur mon texte. Mon texte, c'est une espèce de support d'expérimentation où je me rends compte, les procédés, je les trouve en marchant, finalement, en marchant. C'est évidemment une image. En travaillant, en expérimentant au fur et à mesure. Mais les choses finissent normalement sur un bon texte par venir.
Et en même temps, comme vous le dites, justement, Éric Chauvier, c'est un retour à la grande tradition ethnographique du carnet de terrain.
Tout à fait. Enfin, c'est le retour à un carnet d'enquête, effectivement. Mais les anthropologues ont été un peu schizophrènes en scindant vraiment leur carnet d'enquête. Et Malinowski refusait de les publier. C'est spécialiste de l'Océanie. Il a fallu attendre sa mort et sa veuve qu'il les publie. Il y a une espèce de schizophrénie sur le carnet d'enquête à refuser aussi parce que l'anthropologie a toujours cherché une espèce de scientificité un peu fictionnelle quelque part
donc ce dédoublement dont parle Vincent Debanne avec deux régimes en fait d'écriture.
Je suis tout à fait d'accord avec Vincent Debanne.
Et vous au fond vous avez trouvé votre manière avec ces courts livres cinglants qui vous permettent d'aller aussi au-delà de votre lectorat professionnel.
C'est-à-dire que dans cette désinterlocution, finalement, il y a aussi en anthropologie, il y a aussi trop souvent une mise à distance du lecteur. Or, nous parlons du réel, la mimésis, disent les spécialistes des lettres, elle est très présente, évidemment, l'anthropologie. Pourquoi elle ne le serait pas? Donc la narrativité est là pour impliquer le consommateur de cette petite expertise, comme s'il lisait un roman. Ben, c'est ça l'idée de la narration. Pour moi, c'est pas faire de la littérature pour faire de la littérature, mais c'est emmener le lecteur dans l'expertise. Et ça change tout, puisque y a plus cette scission.
Et puis, ce qui nous éloigne du réel, ce qui nous éloigne de cette consistance du nous qui devrait former société, c'est aussi paradoxalement le vocabulaire des sciences humaines, des sciences sociales qui devrait nous y amener et qui parfois fait écran. Il y avait ce livre que vous aviez publié il y a quelques années, c'était en 2014, qui s'appelait « Les mots sans les choses ». Et c'était un livre assez méchant, mais très drôle et tout à fait salutaire, c'est toujours un livre méchant, drôle et salutaire, sur, je dirais, l'invasion incontrôlé du langage des sciences sociales et d'ailleurs de la psychologie, de la psychanalyse dans dans quoi ? Dans le langage ordinaire ou en tout cas celui qui passe dans les journaux. Qu'est-ce que ça produit comme effet ?
Le langage est performatif, on le sait, certains philosophes ont travaillé cette question-là. C'est-à-dire que le langage nous transforme. C'est-à-dire que le langage fait exister de la réalité.
Oui.
C'est son pouvoir. L'exemple « je vous marie », le prêtre qui dit « je vous marie » ne fait pas que parler, délivrer une information, il crée aussi une union. Et les concepts, c'était un peu ce que j'essaie de montrer, pour moi s'opposent aux catégories. Les catégories, c'est ce que nous mobilisons au quotidien pour classer le monde. Et c'est très intéressant. Mais les concepts, c'est ce qui vient par le haut, ce qui s'impose à nous par le haut, et qui nous laisse un peu déconnecter. Le développement durable, le fait religieux, je peux vous en citer énormément, issus beaucoup de l'écologie politique ou des sciences politiques, qui sont des concepts qui ont finissent l'économie, le mot économie, il y a autant de sens pour ce mot-là que d'occurrence dans une page du Monde. Donc ces mots-là finissent par faire exister une réalité un peu nébuleuse, mais qui nous aveugle tous et qui nous rend démunis. Moi je pense que, comme Confucius, hein, que le premier acte politique c'est de parler précisément. Nous sommes abreuvés de concepts que nous reproduisons. C'est pour ça que je parle de la paranoïa. Quand on dit à quelqu'un, ben, t'es un peu parano. Mais non, c'est un concept. Freud aurait été très opposé à l'usage de cette
petite monnaie de la psychologie. Mais vous allez aussi plus loin parce que vous pointez, non pas pour dénoncer les auteurs, mais le mauvais usage qu'on peut faire de leurs textes. Eh ben, une sorte de foucaldisme qui est devenu invasif, en fait, dans notre manière de dire et de ne pas voir, donc, la société, mais aussi Bourdieu, d'ailleurs.
Mais aussi Bourdieu, bon, que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup Bourdieu. Son œuvre m'a énormément influencé. Aujourd'hui, je peux m'en détacher. Mais si, puisque vous parliez de Foucault, c'est intéressant de voir comment on peut relier le Caire, par exemple, actuellement, oui, à l'œuvre de Michel Foucault. Mais le Caire qui ne nous permet pas, en situation, je pense, par exemple, de travailler dans un hôpital, dans des soins infirmiers. Le Caire est très mobilisé, mais je me rends compte que concrètement, ça ne permet pas de classer toute la négativité qui se produit dans la relation de soins. Comment est-ce que la situation de malaise, on en parle ? Comment est-ce que un burn-out, on en parle ? Le care vient là pour conforter, en quelque sorte, pour lénifier un peu une réalité qui est beaucoup plus dure. Donc, moi, je travaille beaucoup avec un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Harold Garfinkel, qui travaille beaucoup à partir de l'anomalie, du bizarre, de tout ce qui jette le trouble un peu. Parce qu'il dit, si on jette le trouble dans une situation, il y aura des comportements normatifs autour. Et la norme, elle va s'exprimer dans cette réaction-là. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur l'anomalie, en fait, sur le dysfonctionnement communicationnel, sur des situations de ce type-là. Et là, on se rend bien compte, dans le soin infirmier, mais dans les situations médico-sociales, un peu dans la vie de tous les jours, finalement, on se rend bien compte que pour parler précisément, il faut être capable de mettre en mots ces situations-là. La souffrance au travail, elle naît souvent de l'incapacité. Quelqu'un qui souffre, c'est une sorte de double peine que de lui donner un gros concept pour définir sa souffrance.
Donc vous allez chercher dans la poésie, dans la littérature, des leçons d'exactitude, en somme, pour aller trouver ce mot qui va aller aux choses et qui ne va pas se substituer à elles. Votre dernier livre, Le Revenant, toujours paru chez Alia, Éric Chauvier, est plein de ces... est serti, en fait, de ces vers de Baudelaire qui, en italique, au fond, gagnent le texte et sont le font sonner différemment. Je le redis, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Qu'est-ce que ça nous dit encore aujourd'hui pour vous, anthropologue de l'urbain ?
C'est une vraie. Il montre que la modernité, elle est sa forme, c'est l'oxymore finalement. Cette foule, elle est menaçante, bien évidemment, et on sait à quel point la foule est menaçante. Elias Canetti passe une vie à écrire sur la foule. C'est le pouvoir négatif de la foule.
La masse, ce qu'il appelle la masse.
Ce qu'il appelle la masse. Mais en même temps, la foule, Baudelaire y trouve cette passante qui lui permet de définir une espèce d'amour immortel, éternel et inatteignable. Donc elle est ambivalente. Il cerne parfaitement la fascination qu'exerce la modernité et en même temps la menace qu'elle constitue. Donc c'est cette foule assourdissante, elle qui est monstrueuse et qui en même temps va accoucher d'une espèce de vision poétique très forte.
Et puis Baudelaire, il a déplacé le lieu de la beauté. Est-ce que c'est pas ça, d'une certaine manière, dans votre contre-télérama, on y revient, parce que aujourd'hui, d'une certaine manière, cela prend une actualité tout à fait saisissante, ce jugement esthétique contre la France moche, c'est cela qui vous faisait écrire contre-télérama. Est-ce que, au fond, ce n'est pas également la tâche des sciences sociales que de se mettre en colère contre l'inattention et de déplacer le lieu de la beauté?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui, de misérabilistes, déterministes, qui empêchent de s'intéresser à la négativité du monde, c'est-à-dire à ces situations qui sont irrésolues, et à dire, parce que ça serait une sorte d'aveu d'impuissance, à faire part de cette irrésolution, à la montrer comme expertise, comme niveau d'expertise. Et où Baudelaire rayonne encore, c'est en nous disant que finalement, il faut toujours se méfier de ce qui en apparence est beau, moral, etc. Que la pire des turpitudes, c'est une arme fabuleuse pour se promener dans Paris et oui. pour détourner, renverser les situations urbaines, évidemment. Et aussi pour se rendre attentif à tout ce qui dysfonctionne dans ce monde. Mais j'ai plus l'impression que cette époque a beaucoup de mal à travailler ce qui n'est pas admissible. Comment on travaille l'émergence d'une parole raciste, d'une parole homophobe? Est-ce qu'on noie ça sous une espèce de revers de morale ou est-ce que on essaie de travailler ça en situation? Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que citoyen, je suis évidemment contre. En tant que chercheur, je ne peux pas voter en touche. Vous voyez, c'est oui. quelque chose d'important.
Et quand vous vous promenez, cette fois-ci, au-delà de la rocade de Bordeaux, dans le périurbain, on a parlé de Thomas Bernhardt, mais quels sont vos autres auteurs, je ne veux pas dire de chevet, parce que là, on n'est pas le zombie comme Baudelaire, mais de poche, enfin, avec qui vous vous promenez, lequel vous permet de déguiser l'œil sur cette réalité urbaine que vous voulez voir vraiment, voir exactement?
Je pense à un texte de Walser, La Promenade,
oui.
qui est un texte assez fabuleux, qui est une attention, une espèce de régénérescence permanente de l'attention face à une succession de situations extrêmement nouvelles, et puis une façon de reviviscence par la promenade. Je pense aussi au texte des situationnistes, aux dérives psychogéographiques, à Ballard, qui est un auteur de SF, qui a beaucoup travaillé sur ces zones-là aussi, à Thomas Pynchon, surtout à Thomas Pynchon en fait, qui est un auteur qui présente cette particularité de voir ses romans se dérégler dès lors qu'il sort des villes, c'est-à-dire que tout devient possible. Et ça, évidemment, je me sens extrêmement conforté et soutenu par ce type de littérature.
Tout devient possible, tout devient pensable, et pourtant, rien n'est prévisible. À vous entendre, en tant qu'anthropologue, effectivement, des zones périurbaines délaissées, on y revient peut-être à la fin, Éric Chauvier, ben voilà, vous les aviez décrits comme des zones anomiques où on vivait éloigné de soi-même, où le « nous » vacillait. Vous en aviez même fait, d'une certaine manière, le procédé littéraire. Vous nous en avez parlé de ce livre « Contre Télérama ». Et ça se réveille. Et ça c'est avec une énergie que vous ne soupçonniez pas. Alors, on fait quoi? Quand on est, comme vous, anthropologue de terrain, on va voir, on va écrire.
On va écrire exactement, et puis surtout on essaie de questionner les régimes d'expertise qu'on mobilise. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, moi j'essaie beaucoup de travailler avec le récit de vie, la trajectoire, comment est-ce qu'une personne prend acte politiquement de son existence, etc. Donc travailler plus sur le détail, plus sur la trajectoire de vie, être attentif à ça. Je pense que ça questionne beaucoup nos régimes d'expertise. J'entends assez peu cette question-là posée. L'époque fait peu d'épistémologie, parce que c'est un mot qui est compliqué, je sais pas. En tout cas, l'époque, pour moi, l'épistémologie a un lien avec le politique. C'est-à-dire que la façon de regarder le monde induit évidemment un acte politique et une pensée politique. Donc, le plus important, me semble-t-il, c'est ça. Si on se met à penser les choses autrement que par binarité, les villes opposées aux territoires suburbains, le cosmopolitisme épanoui versus le white trash, les petits blancs racistes. Vous voyez, ce genre de schéma réducteur, tous les fantasmes, là pour le coup c'est performatif, tous les fantasmes oui. s'engouffrent dans ce type de binarité. Donc ça questionne vraiment aujourd'hui, je pense, nos régimes d'expertise.
C'est une crise de la représentation, dites-vous parfois, qui d'une certaine manière, en miroir, nous rend incapables d'imaginer la vie des autres.
Exactement. on se coupe complètement d'une projection, mais puisque la consistance du nous, c'est le jeu transcendant, c'est le transcendantalisme de Kant, c'est-à-dire comment le jeu devient nous, comment il se projette.
Oui, c'est je qui dit nous.
C'est je qui dit nous.
C'est je qui dit nous.
Mais ça, l'expertise est engagée dans ce processus, oui. Parce que c'est elle qui permet normalement cette projection, ou qui, à l'inverse, la rend impossible.
Mais c'est un nous qui effectivement est inclusif, c'est-à-dire qui ne s'oppose pas aux autres. Quand un événement arrive, comme celui que nous vivons, ce mouvement social profond et au fond indiscernable, depuis novembre, évidemment les discours d'escorte les plus bruyants, les plus tonitruants vont être au devant de la scène. Comment vous voulez, vous, Éric Chauvier, faire entendre votre voix, qui est une voix à la fois de la mesure et de l'exactitude, toujours par ce chemin poétique.
Chemin poétique, chemin narratif, chemin politique, qui est simplement... qui est l'expert ? En fait, c'est ça la question. Moi, je suis un expert qui ait pu être, à un moment donné, amoureux de la plus jolie fille de la piscine municipale.
Oui.
Vous voyez ? Et c'est pas rien. Hein. Qui est l'expert ? Donc il faut travailler ça au corps, en fait, cette espèce de lien fondateur, en fait.
C'est pour ça que vous allez la revoir.
Voilà.
Et c'est pour ça qu'elle va vous donner des nouvelles de cette, à la fois de cette ville que vous avez quittée, et puis de votre jeunesse.
Oui, exactement, oui.
Mais vous êtes toujours expert dans ce cas-là ? Vous gardez ce mot, parce que, quand même, il accroche, hein, il écorche nos oreilles, non ?
Non, je ne suis plus expert. J'essaie d'écrire sur... Je fais un récit d'enquête. C'est une enquête en profondeur, en immersion. Voilà.
Et aujourd'hui, donc, votre nouvelle immersion, qu'est-ce que c'est, Éric Chauvier ?
C'est une immersion dans les limbes du suburbain et dans mes propres limbes intérieures et dans ce que je peux générer en tant qu'observateur sur ce que j'observe.
Et ce sont des limbes qui vous apparaissent donc plus politiques que vous ne les aviez imaginées.
Oui, mais comme tout est possible, tout peut surgir. Hein, évidemment, je suis assez peu surpris d'être surpris finalement.
Et ça, d'une certaine manière, ça vous met dans une position qui n'est pas une position d'excitation prophétique, je vous l'avais bien dit, mais d'attente littéraire.
Non, parce qu'on est quand même sur un mouvement qui n'est pas apparu du jour au lendemain, même s'il y a une dimension un peu consumériste avant les fêtes de Noël, le problème de l'art, du manque de revenus, hein. Mais il y a quelque chose, il y a un mouvement de fond quand même, hein, qui a été cerné, enfin, sur lequel je travaille depuis très longtemps, quoi, sur le rapport, comment les villes, ce que je disais, plongent ses périphéries dans une espèce d'opacité, d'obscurité, et comment ceux qui sont plongés dans l'obscurité sont en train aussi de se rendre compte qu'ils le sont, et dans ces ténèbres, et qu'il faut essayer de s'en sortir. Et il y a un développement, une certaine rancœur vis-à-vis des urbains qui est en train aussi d'apparaître et qu'il faut questionner à nouveau. Moi, à l'inverse de ce qui a été dit il y a quelques années, je pense que comprendre, ce n'est pas justifié. C'est anticipé, en fait.
Merci, Éric Chauvier.
Merci, Patrick Boucheron.
Matière à penser, Éric Chauvier, Stéphane Desmonts, Joséphine Lampreya, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, je recevrai une historienne de l'exil au XIXe siècle, Delphine Diaz. Bonne soirée.